ma voix cassée, qui j'espère ne vous sera pas trop pénible, pour ces 13e déjà, imaginales, à Épinal, avec notre petit café littéraire habituel consacré au premier roman. Alors, 5 en tout cas normalement sont prévus aujourd'hui à cette tribune, pas parce que c'est le chiffre habituel, tout simplement. Il s'agit des premiers romans, de mes sortes de coups de cœur au-delà du coup de cœur général du festival, qui est, comme vous le savez, Victor Dixen, qu'on recevra à 11h pour son café littéraire solo. Mais ce sont les premiers romans qui, au hasard de mes lectures et parfois sur des conseils d'amis, m'ont donné envie de vous les faire découvrir ou, pour ceux qui les ont déjà lus, redécouvrir, pour vous inciter plus souvent à les lire et à les acheter. Donc ce sont 5 romans qui, parmi une belle production, je crois que la production francophone est de plus en plus professionnelle, de plus en plus passionnante, et ces dernières années, c'est particulièrement marquant. D'ailleurs, je ne vous cache pas que le jury du prix Imaginal, où je ne suis pas, a visiblement, d'après les échos qui m'en parviennent, parfois du mal à départager des gens de talent qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui. Les premiers romans sont souvent de plus en plus professionnels, de plus en plus construits, de plus en plus aboutis. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Donc, mes 5 premiers romans coup de cœur, les 5 premiers romans qui m'ont donné envie d'en parler sont là, enfin, sauf Antoine Ruault. Nous avons donc Stéphane Plateau, tout d'abord, qui est présent, Cindy Van Wilder, François Baranger, et puis c'est bien Fabien Cerruti. Voilà, les 4. Et normalement, Antoine Ruault, dont l'esprit est parmi nous. En général, ce sont déjà des auteurs professionnels, c'est-à-dire que leurs romans, comme je le disais, sont construits, leurs histoires sont passionnantes, leurs personnages sont fouillés et leur rigueur est visible, entre autres, ils sont à l'heure au café littéraire. Commençons donc, comme toujours, par les textes. C'est toujours mieux de démarrer par une lecture et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Cindy Van Wilder, non pas que les autres romans aient démérité, j'en dirai un mot, bien au contraire, mais que Cindy a obtenu pour un premier roman, ce qui n'est pas si fréquent, il y en a eu peu avant elle, entre autres Jaworski, qui est une belle référence. Donc Cindy Van Wilder a obtenu le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy pour la jeunesse, pour les outrepasseurs, ce qui me rend d'autant plus heureuse qu'évidemment le jury des Imaginales me conforte dans mon choix, donc j'en suis doublement ravi. Première plongée. Environ de la Villeneuve de Maupertuis, Île-de-France, mi-décembre 1206. Le cerf menaça Arde à l'orée du bois. L'hiver s'installait avec rigueur dans la région. Le grand Dicor prenait le risque de s'approcher de la lisière dans l'espoir de trouver une herbe plus tendre comme pitance en dépit de l'odeur des hommes. Ces derniers l'appelaient le grand Roussin en raison de sa robe fauve. Silhouette fantomatique, silencieuse entre les arbres dépouillés, les biches et les jeunes du dernier printemps suivaient leur chef d'un pas docile. Tous demeuraient cependant aux aguets. La tombée de la nuit signifiait le réveil des prédateurs. Les feuilles racornies par le froid, brûlées par le gel, émettaient des craquements discrets sous les sabots. Excepté ce bruit, seul témoin de leur passage, le silence les enveloppait. Aussi le cerf perçut-il trop tard la présence de l'intrus. Il poussa un rire intimidant. Ce fut le dernier son qui sortit de sa gorge. Une lame d'os s'enfonça dans sa hampe poil soyeux. L'animal roula des yeux terrifiés, surpris qu'on puisse de manière si audacieuse s'en prendre à lui. Des mains griffues se posèrent sur son large cou, lui déchirèrent la peau. Le cerf se débattit. Il tenta de désarçonner l'attaquant, de le piétiner de ses sabots. En vain. Son ennemi s'accrochait à lui, telle une gigantesque sangsue. Des crocs se plantèrent dans sa jugulaire. Un flot de sang vermeil jaillit. Le grand Roussin entendit le fuite de son peuple, les biches qu'il avait honorées, les fangs qu'il avait engendrées, tous le désertaient, éperdus de terreur. Il agita ses bois en guise d'adieu et mourut solitaire, abandonné de tous. Voilà, une scène d'emblée, la mort de la pauvre bête, la mort du grand cerf, et puis évidemment, quel est cet intrus mystérieux aux pattes griffues? Évidemment, c'est un personnage du roman, mais on le verra un petit peu plus tard. Le roman, vous avez vu tout de suite, description nickel. On est dans la forêt, on assiste à la scène, l'écriture est parfaite, ça roule. On comprend mieux pourquoi Cindy Van Wilder, pour ce premier roman, a décroché le prix Imaginal du meilleur roman jeunesse. Cindy, première question toute saute, histoire de se mettre en route tranquillement, sans un dimanche matin à aller trop loin, une fois que le micro est en route. Qu'est-ce qui vous a amené, Cindy, à faire le choix de la fantaisie, si c'est le choix de la fantaisie qui a guidé le sujet de votre premier roman, Les Outrepasseurs, aux éditions Gulfstream?
En fait, comme je l'ai déjà peut-être dit, du moins à certains qui sont dans la salle, l'imaginaire pour moi était un choix instinctif. C'est là-dedans que je m'épanouis le mieux et du coup que mes histoires sont développées. Et en fait, avec ce premier volume des Outrepasseurs, il y a aussi une forte dimension historique, ce qui n'est pas toujours visible dès le quatrième de couverture. Mais pour moi, c'était aussi un défi à relever que de pouvoir non seulement d'abord construire une histoire solide et dans un univers imaginaire, mais aussi le faire s'entremêler avec notre monde actuel. Et du moins aussi respecter les dimensions historiques, ça aussi.
Autre extrait, c'est une façon de vous faire toucher la construction du roman. On le verra d'ailleurs chez d'autres auteurs comme Fabien Cerutti. Dès leur premier roman, aujourd'hui, un certain nombre d'auteurs d'imaginaire n'hésitent pas à s'engager, c'est valable aussi chez Stéphane Plateau, à s'engager dans des constructions classiques, certes, mais déjà audacieuses. On est à une toute autre époque, là, vous avez vu, une sorte de Moyen-Âge de fantasy. Et là, on est visiblement à une époque très contemporaine. Molly Jenkins, 32 ans, employée depuis 5 ans d'Ultimate Lighting. Vous y avez gravi les échelons en une période record, passant de simple assistante à celle de directrice adjointe. Une brillante carrière, en somme. Molly ne comprenait plus rien. Qui était cet homme qui paraissait tout connaître d'elle? Si vous essayez de me recruter, sa tentative d'humour tomba à plat. L'inconnu continua son laïus. Née à Liverpool, vous vivez seule à Londres, célibataire. Elle dut émettre un geste de protestation involontaire, car l'homme la regarda avec une pointe d'amusement. Oui, je sais, ce n'est plus vraiment le cas depuis quelques semaines, j'en parlerai plus tard. Molly sentit ses joues s'échauffer. La peur qui la dominait jusqu'ici commença à refluer pour laisser la place à l'incompréhension, suivie de près par l'agacement. Attendez une minute, vous m'avez kidnappé, drogué et emmené jusqu'ici juste pour réciter mon CV? C'est quoi votre problème? Mon problème, comme vous dites, est le suivant. Nous avons remarqué depuis quelque temps que quelqu'un avait eu accès à des informations confidentielles ayant trait aux techniques de production d'Ultimate Lightning. Des informations qui se sont retrouvées comme par hasard chez un de nos concurrents. Molly demeura ébahie de l'espionnage industriel. Vos concurrents, répéta-t-elle d'une voix atone. L'inconnu hocha la tête. Si vous ne l'aviez pas encore deviné, je suis votre patron. Mon patron, mais monsieur Birken, n'est qu'un pion, plus pion utile d'ordinaire, mais qui a démontré ses limites dans cette affaire, surtout quand la coupable se trouve sous son nez. Non, murmura-t-elle, ce n'est pas moi, vous faites erreur, je n'ai rien fait. Si, il haussa les épaules. À votre décharge, c'est normal que vous ne vous souveniez de rien. Vous avez été manipulé. Vous étiez sous une emprise particulièrement forte, de l'hypnose en quelque sorte. Molly secoua la tête, ce n'était pas possible, elle nageait en plein cauchemar. Comment pouvait-elle s'être rendue coupable d'espionnage industriel si elle ne se rappelait pas? C'est ridicule, souffla-t-elle. Ce qui est ridicule, rétorqua l'homme d'un ton tranchant, c'est d'avoir succombé au charme de votre stagiaire. Pablo Salazar, 26 ans, originaire de Madrid, une semaine après son embauche, il se glissait déjà dans votre lit. L'œil fauve de l'inconnu brillait d'une lueur inquiétante. Il semblait hypnotiser la jeune femme. Lui enlever toute volonté de protester, elle persista pourtant. « Laissez-le tranquille, il n'a rien à voir là-dedans. »« Vraiment désolé de vous enlever vos illusions à ce sujet, » rétorqua l'homme d'un ton qui n'avait rien de désolé. « Mais Pablo n'a jamais existé. Cette identité, tout ce que vous aimez chez lui, ce n'est que du vent, un masque qu'il porte pour vous endormir. Vous lui avez fait totalement confiance, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête machinalement. Tout en elle se révoltait face aux paroles de l'inconnu. Les souvenirs de Pablo défilaient à toute vitesse dans son esprit. « Vous avez été victime d'un fait. » Il fallut quelques instants pour que la jeune femme comprenne son propos. Quoi ? Un conteur d'amour, plus exactement. Ils agissent souvent de cette manière, cherchant les rapports charnels avec les jeunes femmes. Ils captent leur confiance, se servent d'elles pour obtenir ce qu'ils veulent, et les abandonnent dès leur mission terminée. Vous délirez ? Son interlocuteur secoua la tête. Cela ne vous a jamais semblé bizarre qu'ils ne viennent vous rejoindre que tard dans la nuit ? Ou qu'ils soient déjà partis aux premières lueurs du jour ? Sans parler de sa manie de vous mordre dans les moments les plus charnels dans votre relation ? Une bataille faisait rave dans l'esprit de la jeune femme. Combien de fois n'avait-elle pas été désappointée de constater qu'à son réveil, Pablo avait déjà filé? « Ça ne veut rien dire, vous prétendez que c'est un... » Elle n'arrivait pas à le prononcer à voix haute. « Un fait, oui, » répliqua l'homme sans se troubler. « Un fait qui s'est servi de vous, que vous avez nourri sans vous en apercevoir. Un fait qui vous a condamné. Quoi » Quoi ? Il s'était approché d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Une main rugueuse se posa sur sa nuque. Le dernier bruit qu'entendit Molly avant de mourir fut le craquement de ses vertèbres. Expéditif, le patron. Voilà, on voit la scène, elle est enlevée, droguée, etc. Évidemment, ça tend à tout, sauf à la révélation et surtout à la façon énergique de son employeur, dont on découvrira que ce n'est pas un humain comme les autres. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, construction, à la fois l'époque moderne, à la fois la période classique. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dans le public. Bon, Antoine Roux, asseyez-vous, vous perturbez, vous voyez bien. On salue notre cinquième coup de cœur. Je vantais juste avant votre arrivée le professionnalisme, le sérieux, la rigueur de la nouvelle génération française. Vous en êtes l'illustration. Bienvenue parmi nous, Antoine Roux.
Je vous prie de m'excuser. Vraiment.
Cindy, plus sérieusement, Cindy. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de construire un roman de fantasy, car c'en est vraiment un, avec une alternance entre une période de Moyen-Âge, de Moyen-Âge de fantasy, mais de Moyen-Âge, et une période contemporaine, et on ne va pas révéler toute la suite du roman et comment ça s'agence, non. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, comment vous est venue cette idée de construire comme ça, dans ce balancement permanent, votre histoire, en tout cas dans ce premier volume, ce que je rappelle, c'est une trilogie.
C'est ça, oui, tout à voilà. Fait. En fait, la volonté de construire de cette manière est arrivée très tôt parce que d'un côté, je voulais quelque chose qui soit très moderne, comme ce que vous venez de lire l'illustre, mais aussi un rappel aux légendes et aux fables et aux contes de fées aussi, dont je me suis pas mal inspirée pour construire l'univers des fées et des outrepasseurs. Et je pense que, d'une certaine manière, c'était le rendre hommage que de faire cette alternance entre le présent et puis le passé, donc la France, Moyen-Âge, 13e siècle, je pense. Ouais. Ça doit être ça.
Voilà, une belle entrée en matière. Encore une fois, le prix Imaginal en catégorie jeunesse, du meilleur roman de fantasy jeunesse. Donc ça démarre bien et je pense que ça en a incité pas mal d'entre vous à aller voir tout à l'heure le roman. Deuxième auteur de ce plateau, c'est le cas de le dire, Stéphane Plateau. Vous êtes totalement involontaire, vous êtes un auteur belge, deux fois, quand même. Hein. Et remarquez, c'est pas. Est-ce qu'il y a une tentative de nos amis belges s'emparer de la littérature française, un complot? Mais ça, c'est un autre sujet, les complots, vous le verrez dans les jours qui viennent. En revanche, en tout cas, deux auteurs belges de talent, deux auteurs très remarqués de leur premier roman. Et on voit que s'il y a toujours eu une tradition du fantastique en Belgique, en tout cas, il y a aujourd'hui une vraie tradition de la fantaisie qui est en train de se faire remarquer. Là aussi, toujours le mieux, c'est un petit extrait, le dit de Fintan Cataline. On est au début du roman, à la page 54. Huitième jour de remontée. Dendendra Rana n'est pas seulement le capitaine de la seconde gabarre. Il est aussi notre branin pour cette expédition. Chaque matin, c'est lui qui répand les herbes sacrées devant les proues des bateaux et les laisse aller au fil de l'eau, en offrande au petit dieu du Franard, tout en chantant de savantes mélopées mystiques. Puis il interprète les signes qui nous viennent en réponse dans la houle des feuillages, les cris des oiseaux ou les troubles de la surface de l'eau, bons et mauvais auspices, marques de faveur de telle ou telle puissance locale du fleuve, au nom inconnu des sages, ou au contraire avertissements qui nous incitent à la prudence, messages d'hostilité du monde de l'invisible. Mais le beau Dendendra est également un guerrier habile à la lance et à l'épée, tout comme son frère aîné, le seigneur Calandun. Et s'il entortille ses longs cheveux sombres dans un chignon sacerdotal, il prise aussi les belles soieries, les drapés gracieux et les riches senteurs dont on s'asperge les cheveux, prêtre par l'âme et le savoir, courtisan par le cœur et la naissance. Ce matin-là, son offrande se laisse prendre dans les remous près de la rive, puis rapidement engloutir dans un tourbillon d'eau brunâtre. Dendendra y voit le signe d'esprit néfaste sur notre route. Quelques dévoreurs nous guettent, tapis dans l'ombre. Faragouin crache dans l'eau et porte trois doigts à son front pour conjurer le sort. Peu avant d'appareiller, je glisse deux mots au capitaine pour lui dire que notre blessé a parlé dans le courant de la nuit. Pour toute réponse, Calandun Rona m'adresse l'un de ses longs regards indéchiffrables. Nous parlerons de cela tout à l'heure, m'intime-t-il. Et comme Miak arrive sur nous en compagnie du jeune Quel, il me fait comprendre d'un geste que le sujet est provisoirement clos. La grande gamarre se remet à glisser silencieusement sur le fleuve, entraînant sa jumelle dans son sillage. Des canards sauvages accompagnent notre remontée par voie céleste. Si je pouvais parler leur langue, je m'empresserais de leur demander des nouvelles de la grande Narakine, de notre duchesse Marouet Luari et de cette guerre que nous sommes en train de perdre, là-bas, dans le sud. À midi, le seigneur Rana me convie à déjeuner dans sa loge, signe sans doute qu'il veut me parler loin des oreilles indiscrètes. La courtisane et sa petite fille s'y trouvent déjà, assises côte à côte sur un coffre recouvert d'un épais cuir noir damasquiné. L'espace privé du capitaine est étroit, c'est à peine si nous pouvons nous soutenir tous quatre. Quelques parchemins sont étalés sur son lit et aussi une douzaine de grimoires brunis que je reconnais pour les avoir consultés plusieurs fois en sa compagnie. Ouvrage rare qu'il a lui-même sauvé des flammes au péril de sa vie lors de l'incendie de la bibliothèque d'Agipur. Ils sont nos meilleures sources d'informations sur les mystères de la forêt boréale. Je les écarte avec précaution pour m'asseoir à côté de notre hôte. Il me tend une coupe et une écuelle. Rana porte un pourpoint de velours pastronné, couleur lit de vin, un peu usé mais toujours somptueux, qui lui bombe le torse d'admirable façon. Il a rejeté derrière son épaule sa longue chaîne anthracite pour mettre en valeur le collier de plaques d'or qui lui pare les pectoraux. Il tire son couteau pour nous tailler de généreuses lichettes dans le jambon fumé, puis nous sert un peu de vin de son tonnelet personnel, histoire de faire passer l'infâme brouet de poissons et de céréales écrasées qui est devenu notre ordinaire ces derniers jours. Puis le capitaine se tourne vers moi. « Alors, maître Fintan, des quelques nouvelles de notre blessé ?» Je m'éclaircis la gorge, aussi bonne que possible. La fièvre descend, son mal recule, j'ignore qui faut le remercier. Les prières de Varagouin, le garde de ses propres ancêtres, la garde de ses propres ancêtres, ou je ne sais quel astre qui veille sur lui. Je ne peux dire s'il récupérera ses jambes, mais je commence à croire en son rétablissement. Rana hausse imperceptiblement les sourcils, il lève les yeux de son repas et les plonge droit dans les miens. Et donc, il a parlé ? Stéphane Plateau, il a parlé ?
Alors, il a parlé et il va encore parler beaucoup, mais est-ce qu'il va dire ce qu'on attend de lui ? Donc, ça, c'est une autre question.
Justement, est-ce que pour nos lecteurs, j'ai pris un passage, bon, j'espère qu'il vous convient, est-ce qu'on peut sentir déjà, à partir de ce passage, une guerre dans le sud qui est perdue, donc il y a un affrontement entre au moins deux mondes, hein, deux belligérants. Eux remontent vers le nord, visiblement ils ont une mission, et visiblement il y a un naufragé qui a été récupéré. Au début du roman, il est dans l'eau dérivant à moitié mourant et il le recueille, il est sur une branche d'arbre dans le fleuve, voilà comment ça débute. Et il a visiblement des choses à dire ou peut-être à cacher. Cette sorte de remontée lente qui va rythmer tout ce premier roman, parce que là aussi, c'est le premier volume d'une trilogie. Comment ça vous est venu, Stéphane Plateau ? Qu'est-ce que vous vouliez construire dans ce premier roman de fantasy, là aussi, grande ambition, cette première trilogie ?
Bien, en fait, au début, j'avais l'idée de plusieurs récits de vie. Celui du bâtard qu'on va recueillir sur le fleuve dans le premier tome, celui de la courtisane qu'on verra dans le deuxième tome, celui d'un troisième personnage, et je n'arrivais tout simplement pas à me décider. Et je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de connecter ces histoires. Donc j'ai imaginé la grande gabarre, le navire fluvial inspiré de la navigation de Loire, sur lequel l'expédition du capitaine Kalundun Rana remonte le fleuve Framar. Et cette histoire dans laquelle chacun des personnages à bord est connecté à l'intrigue principale, mais à des choses à cacher. Donc on a à bord du bateau des personnages qui sont des guerriers, qui sont clairement là pour essayer de sauver leur patrie. On a aussi des personnages qui sont plus énigmatiques. La courtisane et sa petite fille, qu'est-ce qu'une femme fait là, dans une forêt sauvage. On a aussi ce blessé qui va être recueilli sur le fleuve, qui est un compatriote et qui dérive sur un gros tas de branches à des milles de toute civilisation, qui va effectivement intriguer le capitaine du bateau. Et donc, dans chacun des tomes, on aura le récit de vie d'un des personnages qui s'insère en alternance avec l'intrigue principale, le récit de l'expédition sur le fleuve. Chaque personnage va devoir se dévoiler peu à peu. Et je dois dire qu'il y en a qui sont un petit peu plus résistants que les autres. Et en ce qui concerne le bâtard, j'ai eu beaucoup de mal à lui tirer les vers du nez. Et je pense que notre ami Fintan, le barde qui est chargé de l'interroger, a eu beaucoup de mal à lui tirer les vers du nez aussi. J'aime bien dire que ce premier tome est une sorte de duel entre deux personnages qui vont se livrer de façon très intime, qui vont se parler à cœur ouvert, qui vont développer finalement une relation de grande qualité humaine. C'est vraiment quelque chose d'important dans mon écriture, c'est de parler de l'humain, mais qui en même temps joue avec des cartes retournées sur la table en se cachant des choses essentielles.
C'est assez étrange parce que si on réfléchit bien, ça pourrait être le tortionnaire et sa victime, cette histoire. C'est un interrogateur, il est chargé. Et en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Bien sûr qu'il y a un enjeu, bien sûr qu'en filigrane, au fur et à mesure de l'avancée, l'impatience, parce qu'il ne lâche pas facilement les informations, on sent bien que certains envisageraient de passer à la manière forte, mais cet interrogatoire est aussi une narration.
Exactement. Mais alors, le plaisir que prend le blessé à se raconter, le plaisir que prend l'interrogateur à l'écouter sont quelque chose de vraiment très très particulier. Je pense qu'on est dans un type de relation humaine qui, par le contexte dans lequel il se passe et aussi par la personnalité de l'interrogateur et de l'interrogé, est quelque chose d'assez rare, est un sort de moment fragile suspendu entre le moment où il le recueille et peut-être le moment où les cartes seront retournées sur la table.
Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part entre celui qui raconte et celui qui écoute ? Est-ce que ce n'est pas aussi le rapport ? Alors, au second degré, tout ce roman est une histoire d'aventure, hein, au premier degré. C'est un livre intelligent, mais ce n'est pas un livre intello au mauvais sens du terme. C'est un livre passionnant avant tout. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part le rapport de l'écrivain de son lecteur ?
Alors, effectivement, c'est aussi, y a aussi une question de gestion de la narration. Il est clair que la raison pour laquelle le bâtard dérive sur le fleuve, je n'ai pas envie d'arriver tout de suite au lecteur, ça fait partie des différents mystères qui peuvent le tenir en haleine. Et il y en a beaucoup, quelque part, dans le roman, des choses à découvrir, des choses qui vont se dévoiler. Et il y en a aussi beaucoup qui resteront à dévoiler pour le tome 2. Et en même temps, c'est aussi justifié par l'intrigue elle-même et par la nature de ce bâtard. La difficulté étant de réunir les deux intrigues au bon moment et de faire le lien au bon moment.
Antoine Rouault, vous n'allez pas passer votre tour, vous allez vous aussi passer à la question. Pour La Voix et l'Épée, et le tome 1, là aussi, d'une trilogie. Alors,
Livre et l'Épée.
Le livre, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Le Livre et l'Épée, et c'est donc La Voix de la Colère, ce premier roman. Et on va voir un coléreux d'ailleurs, un colérique, dès le début. Il dégaina son épée à son tour et posa une main ferme sur l'épaule de Duncadal. Ah, mon ami, nous avons une belle vie. Ils échangèrent un sourire avant de rejoindre les tranchées en bordure du camp. De là, ils s'efforcèrent d'organiser les lignes de défense. Les Rouargues n'étaient qu'un avant-goût. Derrière suivaient les troupes ennemies. Quelques chevaliers restèrent en retrait pour coordonner les hommes chargés d'atteindre les incendies. Les boulets couverts d'étoupes enflammées chutaient à un rythme soutenu. Puis, brusquement, il n'y eut plus que le silence. Sous les nuages blancs se glissait un voile sombre, des nappes de fumée ondulant au gré du vent, que creusèrent bientôt une nuée de flèches. Perchés au bord des tranchées, les archers en encochèrent de nouvelles. « Levez !» ordonna Tomlin, en marchant derrière eux l'épée brandie. « Tirez !» Des sifflements, des grondements, des crépitements. Aucun son n'arrivait à couvrir les hurlements de cœur de chaque soldat en poste, voyant avec horreur les silhouettes de Rouargues foncer vers eux. Ils étaient désormais trop proches pour que les archers, et le temps d'encocher de nouveau une flèche. Et quand bien même auraient-ils fait preuve d'assez de célérité pour armer leurs arcs, la peau des bêtes était si épaisse qu'il fallait plus qu'un petit bout de métal pour la percer. Des sifflements, des grondements, des crépitements et les hurlements qui accompagnèrent le bruit assourdissant des bêtes lorsqu'elles bondirent dans les tranchées, leur gueule écrasée, tordue par la rage. La fumée noire se dispersait en filets ondulés. Entre eux se mêlait le blanc des nuages au gris de la ferraille, les cuirasses scintillantes au brin des surcots. Jusqu'à ce que le rouge du sang vienne souiller la terre. Au loin, le tambour des révoltés qui approchait. Voilà, on est au cœur de la bataille, la voix de la colère, un général de l'Empire. Mais les choses vont aller dans le sens de l'effondrement de cet empire. Et ensuite, ça sera tout l'enjeu de la vengeance de ce général déchu. Antoine Rouault, un thème classique au départ.
Oui, c'est un thème plus de rédemption que de vengeance au départ en ce qui concerne le général. La vengeance intervient pour un autre personnage. C'est effectivement le changement de régime, de mode de pensée qui est mis en avant dans ce roman. J'ai essayé de mettre ce que je pouvais comme fond, comme réflexion que je me faisais également sur la vie, sur l'adolescence. Et la transmission, puisque ce vieux général prend sous son aile un jeune garçon, après justement la bataille que vous venez de dire, enfin dont vous venez de lire un extrait. Et il y a une relation père-fils qui se met en marche entre les deux. Et c'est tout l'enjeu en fait de ce livre, c'est la transmission, qu'est-ce qui va passer entre ces deux personnages et quelle sera la finalité en fait de cette relation.
Là aussi, vous vous inscrivez peut-être vous dans une fantaisie, apparemment, parce qu'on voit au fur et à mesure du roman que les choses sont moins simples, une fantaisie classique d'action, une fantaisie où les personnages sont des personnages héroïques, on va employer le terme, mais finalement, très très vite, on sent que ce qu'on attendait dans les premiers chapitres, l'attente du lecteur va non pas être déçue, mais surprise.
Ah oui, j'espère que c'est plus la surprise que la déception.
Vous ne seriez pas là.
Ah oui, merci. Même arrivant en retard.
Voilà. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort.
Non, je suis passé dans une faille temporelle, c'est pour ça.
C'est le bizutage du nouvel auteur, mais du nouvel auteur de talent déjà. Vous allez voir.
Alors, quelle était donc votre question au départ?
Mal réveillé, décidément le constat est accablant. Heureusement qu'il l'était lors de l'écriture du livre.
Voilà. 42, c'est la question universelle. La réponse universelle à la question. Voilà.
En fait, la question, c'était au départ, le lecteur...
Oui, il est surpris plus que déçu.
Surpris très vite.
Ce que j'espérais, donc. Et là, après, on est passé dans un trou noir. C'est assez classique, effectivement, parce que mon inspiration est peut-être plus tournée vers la tragédie, vers les pièces de théâtre de Shakespeare, de Corneille, et voir les tragédies grecques. Donc, au départ, on part quand même sur des bases qui sont assez propres à la fantaisie, des héros, des combats épiques. Voilà. Effectivement, après, on s'allie un peu tout ça, quoi, parce que c'est ça qui rend l'histoire un peu plus humaine, du coup, et avec la belle liaison. Et du coup, voilà, c'est plus ça mes références. Je sais pas, après, la fantaisie classique, je suis pas trop du côté de Tolkien, ce que je lisais moi étant ado. J'ai essayé de donner un côté un peu plus trash, même si on part sur des bases effectivement épiques.
Alors bon, le vieux général, blanchi sous le harnois, des durs, la belle vie des combattants. Et très vite dans l'histoire qui va bifurquer, il va y avoir une jeune femme, un personnage fort de femme, ce qui commence à être le cas dans la fantasy, mais qui ne l'était pas systématiquement, surtout dans ces fantaisies d'action. Vous y teniez à avoir un personnage féminin comme ça, qui au départ est une historienne, hein, précisons-le.
Alors oui, en fait, il y a deux pour moi personnages féminins qui sont importants dans le roman, qui sont pourtant un peu en retrait, mais qui déclenchent à chaque fois des choses. Il y a justement Viola, qui est l'historienne, qui va questionner le vieux général, et du coup, le général va raconter un petit peu sa vie, et c'est pour ça qu'on va avoir des flashbacks. Et il y a également Mildred, qui est une ancienne courtisane qui a une relation très, très belle avec ce général, puisqu'on sait et on voit qu'ils s'aiment profondément, mais qu'ils n'ont jamais rien pu construire ensemble. Lui faisant la guerre et elle faisant l'amour.
Belle conclusion. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans La Voix de la colère, c'est l'humanité des personnages. Moi, je trouve que souvent dans les romans de fantasy, même brillants, qu'on lit avec beaucoup de plaisir, et j'en ai pourtant beaucoup lu, on trouve des personnages pas toujours fouillés sur le plan des sentiments. C'est parfois un peu stéréotypé. C'est parfois le seul reproche que je fais à certains romans, même brillants de fantasy, d'action. Et là, au contraire, on sent un vrai travail sur l'humanité des personnages. Et tout n'est pas éclipsé par les conflits, les affrontements, la rédemption, les grands thèmes.
Non, effectivement, mais c'est ce qui donne aussi au corps à l'histoire. C'est ça, le corps des personnages.
Ça renvoie à la tragédie dont vous parliez à l'instant?
Oui, un peu. Pour moi, ce sont les personnages qui font l'histoire. C'est leur choix, leurs actes qui va faire que l'histoire va prendre telle ou telle direction. Du coup, leur donner corps et leur donner cette profondeur, ça permet de faire beaucoup de choses en termes de rebondissement, D'avancer dans la narration.
Characters first, les personnages d'abord, comme disent les anglo-saxons.
Oui, sûrement. Moi, je dis juste, j'aime mes personnages.
Bon, on va vous rassurer.
I love my characters.
Nous aussi, des très très beaux personnages. Merci. Dans La Voix de la Colère. Je précise, mais ça c'est moins important pour nous qui aimons les livres avant tout, mais que le livre a déjà une belle destinée puisqu'il a été vendu dans plusieurs pays par Bragelonne, puisque c'est publié chez Bragelonne, et qu'entre autres, ça paraît en même temps dans le monde anglo-saxon.
Oui, en Angleterre depuis octobre également. Et aux États-Unis très prochainement.
C'est incroyable pour un premier roman, non ?
Voilà ma réaction. Je suis emporté un petit peu par tout ça, donc très heureux, mais effectivement, je ne m'y attendais pas.
Il y a une pression terrible sur vous maintenant. Vous allez devoir vraiment faire une brillante trilogie, oui, construire d'autres romans et être à l'heure.
Exactement. Mais là, c'est à cause des pressions terribles d'hier soir.
J'ai cru comprendre. Il n'y a pas d'enchaînement. Hein. Le sournois s'est relevé tant bien que mal et il claudique jusqu'à notre adversaire pour s'assurer qu'il est bien hors d'état de nuire. Ce qui est le cas. Mon officier en second, le chevalier Gérard de Ré, celui qui a mené la diversion sur les arrières de l'elfe, arrête son cheval à côté des corps sans vie de la Balafre et de Petit Jacques. Tous les deux avaient servi sous ses ordres en Italie, je crois qu'il les aimait bien, moi aussi. Le recrutement de mes hommes se fait individuellement, il y a peu de choses que je déteste davantage que tailler une croix afin de la placer sur leur tombe. Il s'agit d'un prix bien trop élevé pour récupérer un simple morceau de parchemin. Malheureusement, chacun sait que ce sont les risques du métier. Celui qui vit par l'épée finit presque toujours par s'en prendre une dans le ventre. Il y a là comme une sorte de règle. Chacun d'entre nous espère secrètement y échapper, par on ne sait quel miracle. Mais il faut admettre que les chances pour que cela arrive sont plus minces que celles d'un crucifié de survivre à sa mise à mort. Encore que, d'après les évangiles, ce genre de choses peut parfois arriver de temps à autre. Accompagné par les trois hommes que j'avais gardés en réserve, je passe à mon tour devant la Balafre et Petit Jacques. Il est toujours bon de montrer aux gars que, même si je n'ai pas de prise sur la mort, je respecte la leur si jamais elle advient. Je m'arrête donc près des corps pour observer un court moment de silence et de prière, sorte de marque dérisoire de mon recueillement. Puis je prends le temps de signifier à Quincou et à Janvier qu'il faut porter les corps de leurs camarades en terre un peu plus loin dans la forêt. Je me tourne ensuite vers l'elfe et m'agenouille à ses côtés. Aucune de ses blessures n'est mortelle, mais je lis dans ses yeux qu'il sait son destin scellé. Il grogne doucement, cloué à l'arbre, en attendant la Lali. Après l'avoir observé quelques instants, j'utilise ma dague pour détacher avec précaution l'étui de cuir sombre accroché à sa ceinture. Celui-ci est cacheté par les armoiries du Haut-Seigneur, qui est son maître, et son cuir est entièrement recouvert de runes de protection. Elles sont tissées en fil de solidor, sacré, et enchantées de filaments de soie noire d'Andale, une union mortelle pour qui ignore la formule d'ouverture de l'objet. L'elfe ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire de soulagement et de victoire, persuadé qu'il est que les secondes qui viennent vont nous emporter, lui et moi, vers une mort affreuse, brûlée jusqu'aux os par le feu infernal d'une formidable explosion. Une fois encore, il se trompe. Son regard s'écarquille doucement lorsqu'il me voit déceler l'étui sans être terrassé par la flamme sombre qui devrait normalement le protéger. Et plus encore quand il assiste à la substitution de son précieux message par un autre que je sors de sous mes vêtements et qui paraît ressembler en tout point à l'original. Ses yeux scient alors et il comprend l'étendue totale de sa défaite et de son déshonneur. La mort soit sur les tiens, s'il savait à quel point j'apprécierais que son vœu se réalise. Voilà, Le bâtard de Cossigan, L'ombre du pouvoir, aux éditions Mnemos. Fabien Cerutti, oui. Même si on pourrait lire un autre extrait qui, lui, se passe à une période contemporaine.
Oui, tout à fait.
Puisque là aussi, la construction entre deux moments historiques différents, y compris deux sortes de fantaisie. On a à la fois une fantaisie qui se situe là aussi, on est au Moyen-Âge, mais un peu plus tard, plutôt.
14e siècle.
Voilà, on a presque à la Renaissance, dans un monde qui est légèrement différent de celui qu'on a connu historiquement. En gros, la Bourgogne a un poids plus important, et c'est entre autres la terre des elfes aussi encore. Hein.
La Champagne.
La Champagne, exactement, pour être précis, vous avez raison. Donc, ce monde, et puis un monde plutôt de fantaisie urbaine, quasi contemporaine.
Alors, du côté contemporain, il n'y a pas de fantaisie.
Oui.
Ça reste un. C'est toute la question, en fait, de notre réalité. L'idée, c'est que le terme fantaisie ne s'applique presque. Enfin.
Vous diriez plutôt steampunk pour la partie moderne, peut-être un peu.
Oui, voilà. C'est-à-dire que. En fait, l'idée, c'est que. Il y a ce monde médiéval dans lequel reste encore une grande partie des légendes que nous connaissons, avec effectivement quelques principautés elfiques, des dragons en Auvergne ou des royaumes nains dans les terres scandinaves, des Nibelungen au nord de la Norvège. Mais que c'est notre monde réel. Et donc, il y a un descendant du héros, bien plus tard, 5 siècles plus tard, qui découvre les écrits de son ancêtre, qui avait été perdu, et qui s'interroge sur la réalité ou non de ce monde médiéval. Et donc, voilà, donc, qui interroge notre propre réalité, quelque part, et l'existence des choses paranormales. Mais pour lui, il est très rationnel, donc il est surpris, il ne comprend pas, il cherche à comprendre et à savoir.
Vous n'avez pas l'air comme ça, mais vous êtes agrégé d'histoire et donc l'histoire vous passionne. Mais vous la traitez évidemment de façon littéraire.
Je n'ai pas l'air comme ça.
C'est un compliment. Pour une ex-enseignante, c'est un compliment, collègue. L'image qu'on se fait de l'agrégé. Oui. Jaworski, donc finalement ces gens sont beaucoup moins recommandables qu'on ne l'imagine. Oui, pourquoi cette passion justement, on aurait pu imaginer, de doctes écritures historiques, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers les littératures d'aventure?
Le croisement entre les deux choses que j'aime, c'est-à-dire l'imaginaire et l'histoire réelle. Et je pense que ce croisement entre les deux a une richesse colossale et vraiment que j'adore. Et donc ça me pousse toujours... À chercher des voies dans ce sens.
Fabien Serruti, en tout cas...
Et si je peux me permettre d'ajouter, dans ma jeunesse, j'ai eu, au cours de mes études, à lire un auteur qui s'appelle Borges et qui mélange énormément le réel et le faux. Et j'adore ça, mélanger le réel et le faux. Et voilà. Alors, c'est pas du tout écrit comme Borges, hein, vous avez pu le remarquer, si vous connaissez Borges. Mais j'aime cette idée du mélange.
Là aussi, de l'histoire, de la culture, de l'humour noir. Parce que le héros, c'est un mercenaire, hein, c'est quand même, mais drôle, drôle quand même.
Avec du recul, disons, sur les choses, on va dire. C'est un humour un peu triste, c'est-à-dire qu'il est forcé de faire plus ou moins des choses vraiment, vraiment laides et répréhensibles, mais il les fait. Et il les fait très bien, mais il les fait avec une once de remords, ce qui lui donne de l'humour noir, un humour noir qui est assez, assez souvent présent.
Un personnage de cynique qui vaut mieux que ce qu'on imagine au début, peut-être.
À la fois cynique et en même temps qui en a pris son parti, ouais. Et qui aime aussi la vie et qui en profite.
C'est aussi dans Le Bâtard de Kosigan, c'est d'ailleurs Le Bâtard de Kosigan, le titre du bouquin, et oui. Le personnage principal, même s'il y a beaucoup de personnages forts dans votre livre. Là aussi, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes parmi les 5 auteurs, mais mes 5 Merci. Premiers romans préférés depuis les dernières Imaginales. Et pour chacun d'entre vous, j'ai un coup de cœur personnel.
Depuis des vraiment... années même, non?
Non, parce que tous les... Allez, on va quand même pas être démagogique. Non, tous les ans, j'ai 3, 4, là cette année 5. C'était une belle cuvée. J'ai gardé François Barranger pour la fin. Pour une raison toute simple, c'est que les autres font des romans de fantasy. Donc je croyais avoir une cohérence thématique.
Oui, je me sens
sur
un
peu
isolé.
Et voilà, histoire de me compliquer un peu ce café littéraire, vous avez choisi de nous faire de la science-fiction, du space opéra, enfin tout y est. Tout
oui,
y
je,
est.
Je suis navré.
Bon.
Je ne sais pas quelle idée m'a pris.
Moi pas, et les lecteurs ne le seront pas non plus, parce que pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, ça c'est un beau roman à acheter, à ajouter à son œuvre de fantasy. Et de la même façon, pour ceux qui préfèrent la science-fiction, qui sont déjà acquis, les autres sont le haut de gamme de la fantasy. Donc, quand on est dans le haut de gamme d'un genre qui n'est pas son genre préféré, ça n'a aucune importance. C'est des chouettes romans. Tout simplement, il m'arrive même, on est entre nous, de lire parfois un grand livre de littérature générale, mais c'est rare. H2524. Tiens, on n'est pas sur Terre. Je procède à notre identification afin d'obtenir l'autorisation d'apponter, monseigneur, fit le pilote sans se retourner. À quelques mètres derrière celui-ci, seul à bord du VTO réservé au baron, Godefroy de Bouillon acquiesça d'un simple hochement de tête, trop absorbé par ce qu'il voyait à travers le hublot pour répondre. Comme tout le monde, il était stupéfié par le Saint-Michel. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il le voyait, puisqu'en 2 ans, il avait déjà eu l'occasion d'y faire 3 visites. Mais à chaque fois, l'émerveillement restait intact. Lorsqu'Urbain IX avait lancé son appel à la croisade, le 18 mars 2202, il s'était trouvé parmi les premiers à y répondre. Jouissant d'une réputation de chef militaire accompli et intègre, le pape l'avait naturellement choisi pour en être l'un des dirigeants. « Navette prioritaire J-38 », récita le pilote d'une voix neutre. « Code d'identification 544-344-L, code de sécurité Epsilon, Kappa, Tau, Sigma, Alpha. Je transmets les cryptocodes sur le port réservé. » Godefroy avait vu le jour en pays wallon, dans les ruines de la Grande Confédération européenne, un siècle presque jour pour jour après la guerre d'une heure. Âgé de 6 ans, lorsque la monarchie avait été restaurée, il n'avait connu que la fin du grand chaos qui avait succédé à la guerre et avait été élevé dans le respect des règles féodales. Dès le début de sa carrière de soldat, il avait su se tailler une solide réputation de guerrier, ne reculant devant aucun combat. Toutefois, ce ne fut que plus tard que se révéla cette image de chevalier aux qualités morales irréprochables que toute la chrétienté avait de lui. Les codes d'identification ont été acceptés, monseigneur, nous allons passer par les champs de force. Nous allons passer les champs de force. S'arrachant au spectacle du navire titanesque, Godefroy se redressa dans son fauteuil et remit un peu d'ordre dans sa tenue. Désormais, dans la force de l'âge, le cheveu ras, une longue barbe d'un blond éclatant lui auréolant le visage, il exerçait une puissante fascination sur tous ceux qu'il côtoyait. S'il était à peine plus grand que la moyenne, la tranquille assurance qu'il se lisait dans le bleu de ses yeux nordiques impressionnait même les plus imposants de ses interlocuteurs. Alors, vous avez vu le petit passage que j'ai choisi. Donc, Dominium Mundi, du latin, titre en latin, c'est pas si fréquent dans le domaine de littérature d'imaginaire. Livre 1, là aussi, on est parti pour une trilogie.
Et non, j'en ai peur. 2 seulement.
2 seulement.
Très épais, mais 2.
Attends, je suis déçu. J'en voulais au moins 3.
Ça compte presque pour 3.
Bien.
1400 pages en tout.
Oui, quand même. On a quand même 600 pages, et puis bon, le suivant.
Et le deuxième fait 800.
Il est sorti, ça y est. Je ne l'ai pas encore reçu. J'en parlais à l'éditeur. Non. Plus sérieusement, en quelques lignes, on sait, tout ça c'est l'intérêt pour ne pas perdre de temps, le personnage, donc un des personnages importants du roman, mais ce n'est pas le personnage central, tout de suite, on sait où on est. On est dans 200 ans, il s'est passé une guerre terrible qu'on suppose plus ou moins nucléaire. Le bouquin ne le dit pas clairement, mais on le comprend quand même.
Oui, en fait, cet historique-là est abordé dans le tome 2. Je ne voulais pas avoir un côté didactique où on rentre dans le tome 1 avec une explication historique un peu lourde.
Voilà.
Donc c'est inséré progressivement dans le tome 2.
On commence à deviner. Bon, on a quand même un peu de capacité de lecture, sinon on ne ferait pas ça, on ne viendrait pas ici. On aime ça. Et donc, on apprend que l'Europe... Ça ne nous surprend pas, finalement. C'est ça qui est fabuleux. Bon, ou inquiétant. L'Europe a explosé, que la royauté a été restaurée, mais en même temps, la féodalité... Donc c'est un monde à la fois technologique, il y a les grands vaisseaux qui partent vers les mondes et tout, donc très haut niveau de technologie après un effondrement, ça c'est l'optimisme. Système féodal, on le voit au fur et à mesure du roman avec les couches populaires, on va les appeler comme ça, qui sont traitées comme des quasi-esclaves pour certains d'entre eux. Et puis une domination du pape. Et en gros, on vit sous une dictature féodaleux-religieuse. Et c'est la chrétienté, le catholicisme, le néo-catholicisme qui est au pouvoir. Le Vatican, non content de lancer de grandes campagnes sur des sujets de société, a pris le pouvoir et a restauré finalement un État théocratique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de construire cet univers étonnant entre l'univers classique de la science-fiction, des grands vaisseaux spatiaux, de la rencontre, on le verra plus tard, avec les extraterrestres, et puis un monde différent, et puis une société féodale, ça c'est plus classique, et puis aussi cette idée, avec les menaces qu'on entend aujourd'hui ici ou là, c'est finalement le Vatican qui a réussi son coup et a recréé un État théocratique. C'est l'actualité qui vous a donné cette idée, cette projection ?
Non, en fait, moi, c'est le... Pour en revenir, juste faire un petit aparté rapide, sur ce qu'on disait au début, entre la différence entre fantasy et SF.
Plus près. qu'on entende.
Donc pour en revenir sur la nuance entre fantasy et SF, pour moi, il n'y en a pas vraiment. En fait, ça, c'est des contextes. Et je pense qu'on peut raconter n'importe quelle histoire, dans n'importe quel contexte, au prix de quelques adaptations. Il y a d'ailleurs des transpositions célèbres où on peut très bien passer d'une histoire qui se joue dans l'univers du western à une histoire qui se joue dans l'univers de la SF, ou par exemple Shakespeare qui a été adapté un nombre de fois incalculable dans des films tous différents, parfois authentiques au niveau historique ou parfois très futuristes. Et donc je ne me suis pas vraiment posé cette question en termes de est-ce que j'ai envie d'écrire une histoire SF ou fantasy, etc. Ce qui m'intéressait, moi, c'était plus le thème de la croisade. Parce que je trouvais que c'est un thème très romanesque, très riche, avec un potentiel très très fort, parce qu'il véhicule beaucoup d'idées, il est très présent dans l'imaginaire collectif, et en même temps il est très peu exploité. C'est un univers qu'on voit très peu, alors en littérature on le voit un petit peu plus, mais pas tant que ça. Au cinéma il est inexistant, on le voit jamais. Il y a eu une tentative il y a quelques années de Ridley Scott, qui était mitigé d'ailleurs. Mais sinon, il y a eu, dans le cinéma hollywoodien, on a eu quelques grands films dans les années 50-60, mais ça s'arrête là. C'est un thème qui est pratiquement jamais abordé, et qui pourtant est très intéressant, et très porteur, parce qu'il est révélateur de tout ce que la société humaine peut véhiculer comme contradiction. Ces hommes qui partent loin de chez eux, uniquement pour faire la guerre, uniquement pour tuer au nom d'une idée qui se font...
C'est le djihad catholique.
Exactement, oui. Et qui, pourtant, une fois sur place, vont bien souvent se rendre compte que, évidemment, les choses ne sont pas si simples, voire même, parfois, historiquement, s'installer sur place, adopter le mode de vie, les coutumes, et même pas revenir chez eux. Et ça, moi, cette idée de chemin initiatique... qui a un point de départ très guerrier et qui se révèle en cours de route plus humain qu'on l'imagine, ça m'intéressait beaucoup. Et accessoirement, les croisades, je trouve que d'un point de vue romanesque, c'est quelque chose de très porteur, c'est vraiment l'aventure pure et simple. C'est-à-dire on part loin, dans une terre inconnue, faire la guerre. Il y a des intrigues politiques, parce qu'on sait très bien que bon, s'il y avait une sorte d'idéal religieux derrière ça, plus ou moins hypocrite, c'est avant tout des questions politiques qui ont justifié les croisades. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui m'amusait, d'essayer de retrouver tous ces paramètres dans un univers futuriste. Je trouvais que c'était un défi intéressant.
Vous avez envoyé votre roman à la congrégation de la doctrine de la foi, Saint-Père,
je ne l'ai pas fait valider. Je crains qu'il ne soit mis à l'index. Bon. Assez rapidement.
Vous n'avez pas été excommunié, alors tout va bien.
Pas encore.
Non. C'est un très, très beau roman, là aussi. Un roman d'aventure. Des personnages attachants, y compris un de ces nobles, croyants, religieux, un peu fanatiques, dont on va s'apercevoir que son honnêteté personnelle l'amène à un certain nombre de contradictions et l'amène à ne pas fermer les yeux quand il va se produire quelque chose. Évidemment, il y a un coup de théâtre lorsque le vaisseau va démarrer, mais ça, on ne va pas le dire tout de suite. Il va y avoir un crime, on ne va pas le dire exactement, mais ça, je peux quand même lâcher ça. Et puis, c'est tout. Je m'arrêterai là. Il faut donner envie. Il y a aussi une enquête. Il y a aussi des rapports entre des personnages. Il y a tout un renouvellement. Cette société totalement codifiée, figée, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et que l'humain, même par des systèmes totalitaires, on a beaucoup de mal à le ramener de façon durable dans des cadres. Et c'est ça aussi qui est peut-être réjouissant, parce qu'au départ, ça pourrait être totalement étouffant, votre univers, et on va se rendre compte qu'il y a de la vie, qu'il y a de la contradiction et qu'il y a de la révolte, finalement.
Bah oui, fondamentalement, dans n'importe quelle histoire, comme ça a déjà été dit précédemment, le moteur d'une histoire sont les personnages. Donc, moi-même, à ma propre surprise, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis retrouvé à fouiller beaucoup plus les personnages que je n'avais imaginé au départ. Où évidemment, au départ, on imagine le cadre, la méta-histoire. On imagine les rebondissements, la chute finale, évidemment. Et finalement, les personnages apparaissent petit à petit, parfois même de façon surprenante, de façon inattendue pour l'auteur lui-même. Et au final, les choses les plus intéressantes, en tout cas, à mon sens, en littérature, sont les personnages qui sont ambigus, même vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui doutent. Et donc là, évidemment, c'est en plein dans le sujet, puisqu'on est dans une société fanatisée, où les gens sont immergés dès leur plus tendre enfance dans un univers ultra-religieux, ultra-fanatique. Mais moi, je crois profondément que même fanatisé, l'individu peut parfois quand même ressurgir de ça. C'est-à-dire que, peut-être pas systématiquement, mais on va toujours avoir des gens qui vont commencer à avoir des doutes, à se poser des questions, alors même qu'autour d'eux, rien ne leur permet à la base. Ils n'ont pas une éducation qui leur ouvre l'esprit, qui leur ouvre des horizons nouveaux. Mais pourtant, de temps en temps, on va avoir des gens qui vont comme ça réussir à s'extraire de cette gangue et à se dire, mais finalement, il y a un petit problème, quoi. Et donc ce personnage, lui, le personnage principal, Tancrède de Tarente, lui, c'est vraiment le noble dans la plus pure tradition féodale, qui est là, qui est le chevalier du Christ, qui est là pour servir les idéaux religieux, mais qui petit à petit va voir les contradictions qu'il y a derrière tout ça, et sa foi va se fendiller. Et donc il embarque au début dans cette croisade, cette ultime croisade, en espérant retrouver la foi, et évidemment ça n'a pas très bien marché.
Bien voilà, c'est en tout cas ce qui marche bien, c'est les histoires, c'est le talent de nos cinq invités, de ces cinq premiers romans de très haute qualité. Je dis sans flagornerie que, alors façon très diverse, vos romans montrent vraiment la vitalité de l'imaginaire français, que ce soit de la science-fiction ou de la fantasy, ces diverses variantes de fantasy. C'est notre côté impérialiste, chers amis. Je le reconnais comme française très volontiers. Sur certains sujets de société, on a parfois envie d'habiter en Belgique. En tout cas, très clairement, vos cinq romans et les romans qui suivent, puisque diptyque ou trilogie, vous avez vraiment réalisé des romans qui sont complètement au niveau de ce qu'on a vu de meilleur depuis un an et parfois même au-dessus de ce que j'ai lu chez les anglo-saxons. Et ça, je tenais à le dire. Ça n'a pas toujours été évident. On avait toujours quelques livres français qui étaient au niveau. La littérature d'imaginaire française commençait depuis une dizaine d'années à être de plus en plus solide, construite, brillante, d'emblée professionnelle.
Francophone.
De langue française, la littérature d'imaginaire de langue française. Et c'est vrai qu'en plus, avec deux amis belges sur cinq, il faut quand même souligner que cette langue que nous défendons aussi, à côté d'autres belles langues, vous la représentez fort bien. Donc voilà, on a cinq... Moi, franchement, je ne sais pas quoi vous dire, sinon que vous allez devoir manger des pâtes dans les semaines qui viennent, parce que vous ne pouvez pas repartir sans vous procurer tous les romans de nos amis. Dominium Mundi, donc le livre 1, mais le 2 est arrivé, ça va vraiment encore être pire au niveau de la carte bancaire. François Baranger, aux éditions Critiques, un space-op avec une croisade. Bon, je ne développe pas, ils en ont assez dit. Le bâtard de Cossigan, L'ombre du pouvoir, donc Fabien Cerutti, aux éditions Mnemos. Antoine Rouault, la série Le Livre et l'Épée, La Voix de la Colère, chez Bragelonne. Manèche, le premier tome, Les Sentiers des Astres aux moutons électriques, pour Stéphane Plateau. Je peux vous le dire, ne le répétez pas. Je me suis demandé pourquoi vous n'étiez pas dans la sélection, à l'évidence, du prix Imaginal, mais votre livre est sorti 4 jours après la date limite. Donc peut-être que vous avez vos chances pour l'année prochaine.
Parce que c'est... Antoine n'est pas le seul à être en retard.
Fallait bien terminer là-dessus. Et les Outrepasseurs, je termine, un très très beau roman pour la jeunesse, mais que comme adulte déjà bien avancé, j'ai eu énormément de plaisir à lire, la série Les Héritiers, ou plutôt Les Héritiers, la série Les Outrepasseurs, Cindy Van Wilder, j'espère que je l'ai bien prononcé, Van Wilder, ça ira très bien, et en tout cas, le prix Imaginal du meilleur roman jeunesse, allez vite faire vos achats à la Bulle du Livre.